Radio Okapi.
Le journal avec Belinda Bossou.
Okapi.
Des morts et des disparus, on en compte encore sur la nationale numéro 1, Kinshasa Matadi. Un camion a fini sa course dans la rivière Kwilu. Pour l'heure, des recherches se poursuivent pour retrouver les disparus dont le nombre reste inconnu. Ouverture ce lundi à Genève de la réunion du conseil d'administration du Fonds mondial. Vous suivrez les craintes de la porte-parole de Médecins sans frontières RDC si le projet de financement de prise en charge des malades du sida n'est pas pris en compte. Pendant ce temps, à Mbujimayi, les personnes vivant avec le VIH crient à leur abandon. Motif, la fermeture du centre de traitement ambulatoire de l'ONG à Mokongo. Madame, Messieurs, bonjour. 4 morts et plusieurs disparus. Bilan provisoire d'un accident de circulation survenu samedi sur la nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa à la hauteur de Kimpese en territoire de Songololo. C'est à plus de 200 km à l'est de Matadi. Nous sommes dans le Bas-Congo. Un gros camion en provenance de Kimpese pour Lufu a fini sa course dans la rivière Kwilu avec à son bord plusieurs passagers dont certains enfermés dans un conteneur de 40 pieds. Pour l'instant, les recherches se poursuivent sur place, selon le commandant de la police de circulation routière de Kimpese. Guy Roger Nyampala nous en dit plus.
Les 4 corps sans vie ont été retrouvés hier dimanche après des recherches selon le commandant de la police de circulation routière de Kimpese. Parmi eux, 3 femmes et un enfant. La même source affirme qu'il y a eu 8 rescapés, parmi lesquels le chauffeur, tous sauvés des eaux par les habitants des villages environnants. D'après des témoins, ce gros camion avait quitté la cité de Kimpese pour le marché de Lufu avec à son bord plusieurs commerçants et de marchandises embarquées dans les conteneurs du véhicule. Arrivé au niveau du pont Kwilu, le chauffeur a raté l'entrée pour finir sa course dans la rivière. Les responsables de la PCR de Kimpese contactés sont unanimes. L'ivresse au volant et l'excès de vitesse sont les causes de cet accident. Alors qu'il est, des sources locales indiquent que les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus dont le nombre reste toujours inconnu. Tout en compatissant au malheur qui a frappé les familles des victimes de cet accident, la société civile de Matadi indique qu'il s'agit bel et bien du résultat de l'impunité dont jouissent certains chauffeurs qui bénéficient de la complaisance de certains éléments de la PCR postée sur la nationale numéro 1 Kinshasa Matadi qui, selon elle, ferme les yeux sur plusieurs infractions. Matadi, Guy Roger Nyampala, Radio Okapi.
Ouverture ce lundi à Genève, en Suisse, du conseil d'administration du Fonds mondial. Sa mission, décider sur les états bénéficiaires des subventions financières du programme Round 10 visant à lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Dans un communiqué publié ce week-end, Médecins sans frontières Belgique indique que la RDC, comme plusieurs autres pays en développement touchés par le VIH-Sida, risque de se voir partiellement ou totalement éjectée de l'actuel Round 10 du financement du Fonds mondial. MSF estime que ce serait catastrophique pour le pays. Corinne Benazek, porte-parole de MSF RDC, est au micro de Prince Moussoumba.
Durant la conférence de New York qui s'est tenue le 4 et 5 octobre dernier, il n'a été obtenu que 11 milliards sur les 20 milliards nécessaires pour la lutte contre le VIH-Sida, paludisme et tuberculose. Donc nos craintes sont effectivement là, car nous avons obtenu pour le Fonds mondial seulement la moitié des ressources nécessaires. Nous avons des craintes si le Round 10 n'est pas accepté par le Fonds mondial, car cela aurait beaucoup de conséquences pour la lutte contre le VIH-Sida en RDC. Actuellement, vous avez seulement 12% des personnes qui ont besoin d'un traitement antirétroviral ont accès. C'est seulement 34 000 et quelques personnes, ce qui est peu sur les 283 000 qui en ont besoin. MSF est là pour faire cet état des lieux, pour dire qu'il faut porter secours à ces personnes.
Pendant ce temps, à Mbujimayi, au Kasai oriental, 2 semaines après la fermeture du centre de traitement en ambulatoire de l'ONG à Mokongo, les personnes vivant avec le VIH crient à leur abandon. Dans une correspondance au maire de la ville, l'association des bénéficiaires de soins de Mokongo indique que déjà 10 personnes séropositives prises en charge par cette structure sont mortes faute des soins. L'état de santé de 10 autres va de mal en pis, indique la même source. Le ministre de la Santé au Kasaï oriental attribue cette situation au refus des PVV de fréquenter les hôpitaux de référence. François Tibenji.
Dans une lettre adressée à l'autorité urbaine, dont une copie déposée à Radio Okapi, l'association des bénéficiaires du centre de traitement ambulatoire Amo Congo déclare avoir enregistré 10 décès parmi les personnes vivant avec le VIH-SIDA. Situation qui est liée à la fermeture de ces centres qui prenaient en charge 1200 malades du SIDA. Une dizaine des autres PVV ont rechuté pendant la même période pour manque de suivi. Le président de cette association déplore le fait que l'administration n'ait pas réagi à leurs différentes correspondances, les invitant à plaider pour la non-fermeture du centre. C'est depuis le 20 septembre 2010 que la procédure de fermeture de ce centre a débuté. Le 30 novembre 2010, le centre a officiellement fermé. Pour le ministre de la Santé, la demande des PVV consistant à la réouverture de ce centre n'est pas à l'ordre du jour. Le centre ferme pour absence de financement, précise-t-il. Roland Chaudou explique que c'est la résistance des PVV à fréquenter les hôpitaux généraux de référence les plus proches de leur milieu qui pose problème. Il n'y a que ce seul choix qui s'offre à eux. Mais pour les ex-bénéficiaires des soins du centre à Mokong, ils ne sont pas bien accueillis dans ces hôpitaux, ils sont transférés. Mbujimai, François Tshibenji, Radio Okapi.
Direction la province orientale où la situation humanitaire s'est un peu améliorée au cours de cette année 2010. Selon le chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires en Ituri, il y a eu notamment réduction de l'effectif des personnes déplacées de 24% en Ituri et de 5% dans le district du Haut-Ouélé par rapport à l'année antérieure. Mais il a indiqué que les besoins restent énormes pour améliorer les conditions de vie de ces déplacés et assurer la protection des civils. Jean-Charles Dupin a dressé ce bilan le week-end lors du lancement du plan d'action humanitaire 2011. Isaac Remoyope pour le détail.
Environ 450 000 déplacés ont été enregistrés au cours de cette année, notamment dans les districts de Ituri, d'Otole et d'Ibazuele, a déclaré le chef des bureaux des OCHA. Ces déplacés sont évalués actuellement à 395 000, soit une réduction de 55 000 personnes. La plupart de ces déplacés ont fui les attaques des LRA dans les territoires des Ango, des Dungu, des Nyangara et des Faradj dans les Hauts et Bazuele. Au cours de ces attaques, ils ont tué 245 civils et enlevé 160 adultes ainsi que 113 enfants depuis janvier 2010. En Ituri, les incursions des miliciens encore actifs en territoire d'Irumu n'ont pas provoqué des mouvements intenses des civils au cours de cette année, ajoute le chef des bureaux des OCHA. Parmi ces déplacés, certains ont bénéficié de l'aide humanitaire, mais d'autres sont toujours sans assistance à cause des difficultés d'accès dans certaines zones, surtout dans les Bazuele. Ces déplacés sont confrontés entre autres aux problèmes de malnutrition et d'accès aux soins médicaux. Mais le chef des bureaux des OCHA Ituri espère à une amélioration de leurs conditions de vie à travers les plans d'action humanitaire 2011 lancés ce week-end à Bunia. De Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Rendons-nous dans la province du Katanga, précisément à Kalemi, où 10 nouveaux magistrats ont prêté serment en début de week-end au tribunal de grande instance de Tanganyika. La cérémonie s'est déroulée dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Kalemi, en présence du procureur de la République près le parquet de grande instance du Tanganyika et de nombreuses autres autorités civiles, judiciaires et militaires de la place. Pour la population, ces nouvelles recrues constituent un appui important à la magistrature du Tanganyika qui n'en comptait que 5. François-Xavier Mibé pour le reportage.
Du Congo, de remplir loyalement et fidèlement.
Il devait être 14 à prêter serment, mais 10, dont 3 femmes, affectées au parquet près le tribunal de grande instance de Tanganyika, ont répondu à l'appel. Vêtus tous de toges noires avec épitoges blanches, les magistrats ont prêté serment après lecture d'une brève présentation de la biographie de chacun d'entre eux, et cela à tour de rôle. La nouvelle équipe arrive ainsi à renforcer 5 autres magistrats existants, portant à 19 le nombre total du corps judiciaire actif au tribunal de grande instance du Tanganyika. L'occasion pour le procureur de la République de montrer le chemin et baliser surtout la tâche qui attend les nouveaux venus dans une juridiction comptant 6 territoires et une population estimée aujourd'hui à 2 millions d'habitants. Le procureur de la République, Emmanuel Mbaki.
Vous devez rechercher des infractions dans l'intérêt exclusif de l'ordre public. Cette action ne peut donc jamais procéder de sentiments personnels ni entacher de partialité. Toute discrimination raciale doit être bannie de l'action du parquet. Et la justice doit se trouver au-dessus de toutes les distinctions qui peuvent diviser le justiciable.
Le tribunal de grande instance du Tanganyika fonctionne avec 5 juges. François-Xavier Mibé, Radio Okapi, Kalemi.
Retournons en province orientale où le commissaire de district du Haut-Touélé déplore la façon dont il a été suspendu la semaine dernière par le gouverneur de province. Jeff Bouchab affirme que le gouverneur de province a annoncé sa suspension verbalement au cours d'un meeting alors qu'il s'est trouvé à Kisangani pour répondre à l'invitation du gouverneur de province. Jeff Bouchab dit qu'il n'a jamais été notifié officiellement et ce afin qu'il présente des moyens de défense. Il a dit au téléphone d'Aliana Alipanagama.
Cette procédure exige d'abord l'ouverture d'un procès verbal d'action disciplinaire, après laquelle on m'aura donné aussi les moyens de me défendre. Si les moyens de me défendre ne les convainquent pas parce que où ils sont conscients qu'il y a une gravité de la faute, c'est dans ce moment-là que les suspensions peuvent s'en suivre. Mais quand ils ne pourront pas trouver qu'il n'y a pas de gravité dans ce que j'ai pu poser comme acte, la suspension pourrait sortir de quelle porte? À moins que la suspension soit motivée par, n'est-ce pas, les non-dits du discours, les pensées du discours, liées, n'est-ce pas, à trouver peut-être un bouc émissaire où la victime est d'un conflit au contour d'un espace obscur et aux enjeux mal définis. Si je suis revenu ici, c'est juste avoir le temps de me préparer. S'il m'envoie, je suis retourné au poste d'attache que j'aille ma notification pour quitter cette province parce que l'une, il a déclaré tout haut qu'il n'a plus confiance en ses commissaires de district. Alors, moi, je dois quitter. Les gens qui auront confiance en moi pourront travailler avec moi ailleurs.
Pour l'instant, le gouverneur n'a pas encore réagi. Néanmoins, le ministre provincial de l'Intérieur, Crispin Atama, affirme que le commissaire de district du Haut-Touélé avait été appelé en consultation par le gouverneur à Kisangani et qu'aucune mesure n'a été prise à son endroit. Et c'est tout pour ce journal. Merci de rester avec nous pour la suite. Okapi, Okapi, Radio, Okapi.